sommeille encore à l'autre bout de mon nord. L'enfant de toi n'a pas de nom, il est encore une question. L'enfant de toi n'a de prénom qu'une promesse à mes sillons. L'enfant de toi me fait silence et je lui prêterai ma voix quand il viendra tenter sa chance au rendez-vous d'un autre moi. L'enfant de toi sommeille encore à l'autre bout de mon remords. L'enfant de toi sommeille encore à l'autre bout de mon remords. L'enfant de toi n'a pas de nom, il est encore une question. L'enfant de toi n'a de prénom qu'une promesse à mes sillons. L'enfant de toi, tu le désires et tu le crains tout à la fois. Il a tant de choses à te dire, ne lui refuse pas tes bras. L'enfant de toi sommeille encore à l'autre bout de mon remords.
C'était Manic, l'enfant de toi. Aussi une chanson des années 70 qui nous paraît un petit peu vieillotte aujourd'hui. Pourtant, certaines autres chansons nous semblent très fortes. Et tout à l'heure, on entendra une autre chanson sur l'avortement, Le silence de l'hôpital, chantée par Claire. Je crois que c'est plus fort comme souvenir. Evelyne, alors, une de ces idées fortes peut-être du deuxième sexe, parce que, bon, plus tard, elle annoncera en quelque sorte une relecture, Simone de Beauvoir, de son deuxième sexe, au moment où elle s'engagera profondément dans ce qu'elle appellera le nouveau féminisme. Alors, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce passage de l'un à l'autre, est-ce qu'il y a une idée, par exemple, qu'elle défend de façon importante dans le deuxième sexe, qui serait important de relever ?
Ben, elle découvre pour elle quelque chose qui aujourd'hui nous paraît aller de soi. Mais elle découvre et là aussi l'influence de Virginia Woolf a certainement été déterminante, qu'il y a un rapport direct entre l'indépendance économique et la liberté intellectuelle. Alors ça c'est certainement une idée de base. Et bien que, comme on l'a vu, on peut puisse pas dire qu'elle était vraiment, elle, indépendante économiquement à l'époque, puisqu'elle dépendait en partie des subventions de Sartre. Mais ça, c'est quelque chose qui devient clair pour elle et sur laquelle elle insiste. Mais une chose que je voulais dire, je trouve qu'elle a des mérites aussi quand même en écrivant son deuxième sexe, c'est qu'elle a, du point de vue de la méthodologie, elle a été capable d'utiliser des sciences humaines qui étaient très nouvelles à l'époque, hein, qui étaient à leur berceau, comme l'anthropologie. Et elle connaissait Claude Lévi-Strauss, qui était de leur même génération et qui venait de publier Les structures élémentaires de la parenté. Et elle est allée souvent parler avec lui dans son laboratoire sur ces questions-là, pour intégrer ses connaissances aussi dans ses chapitres sur les femmes. Et de même avec la psychologie, qui était aussi à l'époque, juste au sortir de la guerre, c'était pas encore une science aussi répandue et aussi, quotidienne qu'elle l'est aujourd'hui. Et ça elle a su le faire. Et c'est important. Alors, l'ouvrage, il a été publié en 1949 et on a dit, ça fait depuis le Moyen-Âge, en France, on n'avait pas changé de discours sur les femmes. C'est la première fois en 8 siècles qu'il vient un nouveau discours sur la condition féminine. Alors bon, c'était quand même
on peut comprendre le poids de ce livre, exactement.
Hein, et on peut comprendre l'importance aussi par rapport à, je dis encore, toutes les attaques et toutes les injures et toutes les procès qu'on lui a fait. Et elle a été vraiment attaquée. Mais elle, vu son caractère tellement aussi indomptable et puis méprisante, comme j'ai dit au début, pour ce qu'elle pouvait pas changer, elle le méprisait. Bon, alors elle a pris ça avec une certaine hauteur. Bon, tant pis si ça se vend et si je suis connue et si ces idées de toute façon me paraissent bonnes, tant pis si ça me fait beaucoup d'ennemis.
Mais je crois qu'elle a quand même reçu beaucoup de lettres de femmes qui lui disaient que ce livre leur avait permis de découvrir découvrir un certain nombre de choses à propos de leur propre vie et de leur propre situation de femme. Donc, ça a quand même dû la conforter un petit peu, non?
Oui, mais c'était plus un livre comme les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle a eu des qui étaient peut-être plus abordables quand même que le deuxième sexe. C'est quand même un livre assez, enfin, les deux volumes, c'est quand même. C'est une matière assez consistante. Et pour le, disons, dans le grand public, ça a été plutôt les mémoires d'une jeune fille rangée où elle reprenait des problèmes de son enfance, son éducation, où là, beaucoup de femmes se sont senties identifiées et lui ont écrit qu'elles s'étaient reconnues en elle. Moi, je peux te donner, mais je ne sais pas si ça vaut la peine maintenant ici, les grands chapitres du deuxième siècle. Mais enfin, en gros, on peut dire qu'elle parle de tous les grands mythes, elle parle de la biologie, elle parle elle reprend toute l'histoire. Bon, elle dit toute l'histoire a été faussée parce que dans les annuaires historiques ont toujours été faits par des hommes. Hein. Donc, c'est pas possible que l'un puisse parler pour l'autre. Hein. Donc, tout est faux. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent est faux, puisqu'on n'a jamais tenu compte de la voix des femmes, puisqu'elles ne se sont pas exprimées. Donc là aussi, il y a une grande idée, d'une certaine manière, c'est que une grande partie de notre matériel est faussée. Donc on pourrait en fait, si on va l'utiliser, il faut faire attention et puis il faut y mettre des grilles, en fait, parce qu'il a été écrit par des hommes, dans l'optique des hommes, et que ça fausse beaucoup de choses pour les femmes.
Oui, mais pourtant, elle dira qu'il ne faut pas rejeter systématiquement tout ce que les hommes ont fait, dans la mesure où, par exemple, elle croit tellement pas à l'existence d'une identité féminine, hein, elle refuse d'admettre qu'il y a une féminité en dehors de toute chose. Il me semble qu'elle l'a affirmé souvent et que donc, même s'il faut critiquer ce que les hommes ont fait d'un certain nombre de choses, il ne faut pas forcément tout rejeter en bloc, il faut savoir l'utiliser en tant que femme. Hein. Est-ce qu'elle, dans cette critique qu'elle a faite de la lecture, de l'écriture, d'un certain nombre de choses à propos des femmes, elle doit faire apparaître quand même cette notion-là, non?
Écoute, je suis pas une, j'ai pas fait l'exégèse.
Non, mais je crois que c'était ces grands désaccords avec certaines des féministes plus tard, hein, qui disaient beaucoup, il faut balayer, on peut pas faire confiance à tout ce que les hommes ont fait, il faut qu'on recrée nous des valeurs qui sont émises par les femmes, et elle sera pas d'accord avec ça. Hein.
Oui, elle sera sûrement pas de la tendance de Luce Irigaray, ça c'est sûr. Hein, elle ira pas dans ces extrêmes là.
Excuse-moi. Il me semble d'ailleurs que c'est clair quand on voit l'importance de la collaboration aussi, là encore, de Sartre. C'est beaucoup Sartre qui va la pousser à étoffer cet essai du deuxième sexe. Il va beaucoup la pousser. Et c'est pourtant à ce moment-là que leurs relations vont commencer à être un tout petit peu moins fortes entre Sartre et elle. Et puis, comme le disait Evelyne, elle va beaucoup aussi puiser des sources chez Lévi-Strauss. Elle va quand même se renseigner auprès de certains hommes dont elle estime l'intelligence, la culture, etc. Donc c'est clair. Et puis c'est vrai qu'elle va beaucoup partager avec Colette Audry. Elle va aussi beaucoup partager avec une femme dont on n'a pas encore parlé, Violette Leduc, qui va lui poser tellement de problèmes, qui va l'embêter, selon Simone de Beauvoir, tout au long de sa vie, que ça va aussi la faire réfléchir sur la condition de la femme, beaucoup. C'est quelqu'un qui va la renvoyer très fort à la féminité qu'elle refuse.
Oui, Violette Leduc va être aussi son... On dit que ça a été sa grande inspiratrice pour son chapitre sur les lesbiennes. Parce que, bon, elle, Simone de Beauvoir, elle subissait les assauts répétés de l'amour de Violette Leduc et auquel elle ne voulait pas céder.
Oui, ça fait partie des nombreuses attaques qu'on a aussi fait à Simone de Beauvoir, l'accusant d'être lesbienne, et elle s'en est toujours défendue.
Mais comme le dit Deine Reber, défendue, donc on ne sait pas très bien sur ce plan-là.
Pas très important. Non.
Mais là aussi, dans le deuxième siècle, c'est elle qui a décrit, enfin, qui a abordé le problème de la sexualité féminine dans tous ses aspects. Ça, personne n'en parlait à l'époque. Alors ça aussi, évidemment, ça a créé des...
Oui, d'ailleurs, je crois qu'elle recevait des lettres où on lui disait... je crois Sartre a reçu des lettres où on lui disait « Désormais, je connais le vagin de votre compagne. » N'est-ce pas ? On n'hésitait pas à lancer ce genre d'attaque absolument épouvantable.
Et elle va parler de l'excision, ce qui fera aussi un grand tollé.
Oui, elle était vraiment... Elle a fait un panorama où, je sais pas, de c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, elle a vraiment un grand survol de beaucoup de situations de femmes et à travers l'histoire, hein, dans l'espace, dans l'histoire, à travers les différentes sciences par lesquelles on pouvait l'aborder. C'est quand même, même si l'ouvrage il a vieilli, c'est quand même. Il fait date quand même.
Il reste une référence.
On ne peut pas l'éviter, même si on veut aller plus loin, évidemment. Mais...
Ne serait-ce que pour comprendre l'évolution ensuite qui a amené au mouvement de libération des femmes, partant des États-Unis, en France, en Europe, ailleurs. Tu parlais tout à l'heure, Evelyne, des mémoires d'une jeune fille rangée. Ce livre arrive combien de temps après Le deuxième sexe ?
Il arrive 10 ans après. 10 ans après, dans la cinquantaine, elle est. En 1958, et elle a toujours parlé d'elle-même depuis le début, hein, Simone de Beauvoir, dans tout ce qu'elle a écrit, toute sa vie, tous ses essais, tout, elle parle toujours d'elle. Mais jusqu'alors, elle avait, disons, pris une certaine distance, c'était des personnages de romans, et puis une pièce de théâtre, et donc elle prenait une certaine distance vis-à-vis d'elle-même, en se décrivant. Et puis, vers la cinquantaine, elle a eu envie, au fond, d'aborder les choses directement, par le biais de l'autobiographie. Et elle parle d'ailleurs de sa vie comme d'un bizarre objet. Elle dit ça. Ma vie, quel bizarre objet. Et elle a eu envie de s'expliquer, de se raconter. Et ça a donné 4 gros volumes. Dont le premier, c'est « Mémoire d'une jeune fille rangée » en 1958. La force de l'âge en 1960, la force des choses en 1963 et tout compte fait en 1972. Donc pendant, ça fait une quinzaine d'années, elle a fait une espèce d'introspection publique, pour dire une espèce d'auto-analyse très intense et puis d'après sa biographe très honnête aussi, même si elle a certainement pas vu certaines choses sur elle-même, parce que c'est quand même difficile de voir tout sur soi-même. Elle a essayé d'être le plus honnête possible et oui, le plus proche de la vérité.
Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'on peut sauter comme ça, à nouveau 10 ans, là j'essaye de vous faire franchir peut-être un peu vite certaines étapes de son existence, on saute de 10 ans à 10 ans comme cela, peut-être parce que le temps nous est compté et que la vie de Simone de Beauvoir est une longue et riche vie et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on a très envie bien sûr d'aborder peut-être cette deuxième partie, je sais pas si on peut la distinguer du reste, mais en tout cas où elle va devenir... militante, où elle va devenir active d'un point de vue politique, d'abord dans les événements de mai 68 en France, puis ensuite à l'intérieur de ce qu'on appellera le nouveau féminisme, enfin nous tout court, le féminisme, mouvement de libération des femmes. 68 donc va jouer, elle va à ce moment-là s'engager dans la lutte politique et aux côtés de la gauche et de l'extrême gauche.
Oui, mais pas vraiment 68 encore, parce qu'en fait, c'est les étudiants ont demandé à Sartre de venir, par exemple, aux manifestations et aux débats publics. Ils voulaient Sartre, et Sartre était dans un état physique pitoyable, drogué, alcoolisé, déjà à moitié aveugle, c'est tout juste. Et les étudiants l'appelaient Jean-Paul, ce que personne n'avait jamais osé faire. Il avait Sartre.
On le vous voyait sûrement pas à ce moment-là.
Oui, mais c'est lui qu'ils ont voulu. C'est pas elle. Si elle était là, elle était là pour le protéger, pour qu'on l'amène, quand il ait une chaise, etc. Protéger dans le sens littéral du terme. Et elle dit, justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été une déception d'une certaine manière pour elle, puis comme pour les autres, les étudiantes, par exemple, des manifestations de mai 68. Et à ce propos-là, elle dit elle a un petit passage que j'aimerais bien lire. Je crois que le féminisme militant est directement issu des manifestations de 68. Que des attitudes vraiment féministes se mirent en place lorsque les femmes s'aperçurent que les hommes de 68 ne les traitaient pas en égal. Les hommes faisaient les discours, mais les femmes les tapaient. Les hommes étaient sur les tribunes improvisées et sur les estrades, mais les femmes restaient à la cuisine à faire du café. Elles ont fini par en avoir marre parce que c'était des femmes intelligentes. Elles comprirent qu'elles devaient prendre leur sort en main et séparer leur lutte du discours révolutionnaire plus vaste des hommes. J'étais d'accord avec elles, car je comprenais que les femmes ne pouvaient espérer que leur émancipation viendrait d'une révolution générale, mais qu'elles devaient créer leur révolution à elles. Les hommes ne cessaient de leur dire que les besoins de la révolution passaient en premier et que leur tour, en tant que femme, viendrait après. Et je me suis rendu compte que les femmes devaient prendre en charge leurs problèmes de façon personnelle, directe et immédiate. Elles ne pouvaient plus rester là à attendre patiemment que les hommes changent la société pour elles, parce que cela n'arriverait jamais, sauf si elles-mêmes s'en chargeaient.
Oui, je crois qu'effectivement, ce que tu viens de nous lire, Evelyne, est fondamental parce que c'est ce qui fera qu'elle ensuite s'engagera dans le mouvement féministe, parce qu'elle a longtemps cru à la lutte de classe où on cherchait à prendre le pouvoir en tant que les plus pauvres, en tant que les prolétaires, les ouvriers. Et puis tout à coup, elle va se rendre compte qu'effectivement, les femmes doivent lutter aussi pour elles-mêmes en dehors de cette lutte de classe, même si elles doivent garder dans la tête l'idée de la lutte de classe. Tout ça, je crois qu'elle gardera dans sa tête.
Oui, et là, pendant, disons, en 1970, c'est quand le MLF français la contacte, et pour la première fois peut-être la contacte, elle seulement, pas Sartre. D'ailleurs, Sartre, il est vraiment, à partir de ce moment-là, dans le déclin. On parle de moins en moins de lui, et puis il est très atteint physiquement, donc il peut plus faire beaucoup. Et à partir de ce moment-là, c'est elle à elle qu'on demande. Et elle débute une trajectoire tout à fait indépendante de celle de Sartre. Et ça va durer jusqu'à la fin de sa vie, donc 16 ans, 1970 jusqu'en 1986, où elle va travailler, militer, participer à des meetings, s'engager pour des signatures, être présidente d'associations en faveur de l'avortement. Enfin, elle va pas ménager son temps pour les luttes féministes. Elle va vraiment s'engager un maximum. Elle va écrire des préfaces, enfin tout ce qu'on lui demandera d'aide dans ce domaine-là, elle va jamais refuser.
D'ailleurs, un des premiers moments où on lui demandera de participer, c'est ce fameux mouvement des femmes qui ont affirmé haut et fort et publiquement qu'elles avaient avorté dans leur vie,
oui.
Et donc dans cette lutte vraiment primordiale pour les femmes,
oui,
sur l'avortement.
C'est la première pour la légalisation de l'avortement,
voilà.
Absolument.
Alors je vous propose d'écouter quelques notes de la chanson de Claire à propos de l'avortement, « Silence de l'hôpital ».
Donnez-moi l'enfant et restez là, c'est plus facile. Ce n'est rien qu'une piqûre au bras, mais les mères sont fragiles. J'ai tendu l'enfant et j'ai rougi comme frappé. Je crois qu'un jour on ne me fera plus céder. Monsieur, allez faire un tour dehors, ce sera difficile. Votre femme va peiner encore et les hommes sont fragiles. À cette heure, votre enfant sera là. Du moins j'espère. Il est resté derrière la porte, le père. Attendez un instant, n'entrez pas. Il a du mal. La famille souvent n'aide pas. Elle se tient mal. Bientôt il sera de l'autre bord, vous entrerez.
Quelques notes du silence de l'hôpital chantées par Claire dans ces années 70, dans lesquelles Simone de Beauvoir commence à s'engager très activement dans le mouvement féministe, très activement dans le sens où elle est déjà, entre guillemets, une dame d'un certain âge et que, évidemment, comme elle le dit elle-même, elle ne va pas courir les manifs, etc. Mais elle sera toujours un petit peu l'âme pensante et la stimulante et d'accord de soutenir les mouvements qui s'organisent autour de l'avortement, autour des violences contre les femmes. Je crois qu'elle va prendre très à cœur la lutte contre les violences faites aux femmes Et qu'elle sera d'accord parfois que les femmes doivent à leur tour user de la même violence dont les hommes usent contre elles pour se défendre. Alors, peut-être on va voir comment l'histoire se finit, parce que, hélas, il faut arriver à la fin de l'histoire. Son histoire qui, elle, se finira en 1986, mais et surtout, quelle place on doit reconnaître et pouvons toujours reconnaître à Simone de Beauvoir dans l'histoire des femmes telle qu'elle a été revécue depuis ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années.
Alors, pour être brève, disons que dans les 6 dernières années de la vie de Simone de Beauvoir, il y a d'abord la mort de Sartre en 1980, qui sera une chose évidemment très importante pour Simone de Beauvoir, et puis la mort de Nelson Algren en 81, qui va être aussi une deuxième chose, et qui va motiver une envie de Simone de Beauvoir de retourner aux États-Unis. Parce qu'elle a été toujours une inlassable voyageuse, elle marchait, elle prenait son sac à dos, elle allait, etc. Et elle va vouloir refaire ce voyage avec sa fille adoptive, Sylvie Lebon de Beauvoir. Et c'est un voyage qu'elle refera, effectivement. Et à son retour de voyage, elle va commencer à se plaindre de crampes d'estomac. Et très rapidement, on va l'hospitaliser et se rendre compte qu'elle souffre de la même maladie dont est mort Sartre, une cirrhose du foie, due à un alcoolisme, enfin en tout cas une alcoolisation assez importante tout au long de leur vie aux deux. Et elle va mourir le 14 avril 1986, et pour l'anecdote, elle mourra 6 heures avant le 6e anniversaire de la mort de Sartre.
Oui, tu disais l'alcoolisme, la cigarette, la drogue, tout ça faisait partie d'un certain décor de l'existentialisme dans lequel vous avez essayé de vous plonger au début de cette émission, mais je vois que vous avez déjà renoncé.
On n'a pris qu'une cigarette. Et...
je suis désolée, la maison ne fournit pas le cadre existentialiste. Alors, en fait, aujourd'hui, Simone de Beauvoir est morte, mais bien sûr, tout le monde garde Simone de Beauvoir en tête, même si Le Deuxième Sexe, on le disait tout à l'heure, est un livre qui date, il est quand même encore une référence, il a été réédité à de nombreuses reprises. Donc, comment peut-on placer Simone de Beauvoir dans le féminisme, dans l'histoire des femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui se réfèrent à Simone de Beauvoir quand on parle féminisme, en France en particulier, aujourd'hui?
Oui, parce qu'elle reste un... Je ne sais pas si par rapport à sa théorie, parce qu'elle n'a pas apporté de nouvelles idées de comment pourrait évoluer un comportement féministe. Mais elle est un symbole. Sur le plan symbolique, il me semble qu'elle reste importante. Et moi, par exemple, qui ne suis pas de la même génération, mais qui était tout à fait nourrie à l'âge de... entre l'âge de 15 et 25 ans, j'ai beaucoup lu les Sartre, Camus, de Beauvoir, et elle était pour moi un peu quand même le modèle de la femme indépendante à l'époque. Et il n'y en avait pas beaucoup, celle qui osait ne pas se marier, celle qui osait ne pas avoir d'enfants, celle qui osait affirmer des prétentions intellectuelles. Elle était un modèle, elle était un symbole d'indépendance et surtout sachant de quel milieu elle venait. Donc ça avait signifié quand même beaucoup de travail sur elle-même et de force intérieure pour faire ça. Donc sur ce plan-là, moi je crois qu'elle reste importante et puis elle reste historiquement importante. J'entends, il faut connaître les jalons de notre histoire. Puis elle en est un, ça c'est sûr. Et puis on pourrait... terminer sur ce que dit sa biographe de sa contribution. C'est une opinion.
Tout à fait.
Mais il me semble qu'elle est assez bien pensée. Lorsqu'on évalue sa contribution, une chose seulement est sûre. Aucune femme dans la littérature contemporaine n'a été si indissociablement liée aux grands événements, causes et actions de la société qui était la sienne. Elle se servait du langage. Or, elle en a fait un usage particulièrement curieux en mettant le discours politique au service du changement social. Prises séparément, ces analyses sont, sinon toutes, du moins pour la plupart, lumineuses. Mises bout à bout, elles créent un kaléidoscope d'images et de réalités, d'opinions et de faits. L'idéologie féministe ne peut ignorer Simone de Beauvoir. Fait historique, son importance ne peut être remise en question, ne peut être niée. Il reste à savoir, et c'est là la vraie question, comment évaluer sa contribution et quel usage en faire dans les années à venir.
En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'avoir fait cette immense lecture. Nous le rappelons, le titre du livre, Evelyne, tout simplement, Simone de Beauvoir.
800 pages, dont 100 de notes.
Ouf là là. Mais comme tu le disais, une biographie qui se lit quasi comme un roman, tellement c'est écrit de façon passionnante par cette Américaine, Deirdre, on ne sait pas comment ça se prononce, Bear, et ce grand livre publié aux éditions Fayard et que vous pouvez bien sûr trouver à la librairie L'Inédite. Il est temps de rappeler chaque fois que c'est nos amis de L'Inédite qui nous font découvrir ces livres chaque mois. Et que celui-là, bien sûr, vous pouvez le trouver sur les rayons de la librairie, qui est ouverte toujours l'après-midi, Evelyne ?
Le matin de 9h à midi et l'après-midi de 2h à 6h30.
Et Paola, en tout cas, merci mille fois de t'être joint à Evelyne pour nous faire découvrir cette biographie. C'était une très charmante rencontre et très intéressante rencontre. J'espère qu'on se retrouvera dans un mois, dans deux mois, puisque nous nous retrouvons chaque mois.
Dans un mois, on se retrouve. Voilà. Tu sais qu'on a notre prochain rendez-vous.
Déjà fixé et déjà prévu.
Le 18 mars.
Alors, on se retrouve le 18 mars avec Annette, Paola, Evelyne de la librairie d'Inédite. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour aujourd'hui. Et Romu Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8, et bien la semaine prochaine, ce sera la suite de nos histoires de femmes indiennes. Et pour terminer, et bien je vous propose une chanson d'Anne Sylvestre, Les Frangines, qu'on a toujours voulu d'abord mettre en concurrence et puis qui sont devenues très copines. Et Anne Sylvestre était aussi une des femmes qui a marqué les années 70, entre autres avec sa très belle chanson sur l'avortement qui était chantée par notre amie canadienne Pauline Julien, qui aurait aussi pu faire partie des nombreuses chansons des années 70.
S'ils sont avec moi, mes bien-aimés, c'est ma vie encore. Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes. En face des garçons commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve
en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait, Frangina, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
C'était Anne Sylvestre dans Remue Ménage Radio Zone 93.8 et dans quelques instants, eh bien, vous retrouverez Radio Pleine Lune et les informels.
On a tant navigué sur tes canaux, on a fait tant de vagues sur ta peau, on a tant labouré ton ventre. On a tant escaladé tes sommets, tant exploré ton monde au plus secret, reposé le long de tes pentes, avec espoir ou épouvante. Que se défait le paysage, que se décale ton image, et qu'on voudrait que tu te voies déjà moins belle qu'autrefois. Mais pourtant, tu es belle Marie, Marie géographie, belle comme un pays meurtri.